pouet.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la première émission de l'année 2021. On est déjà en 2021. Donc, évidemment, comme on vous l'avait dit, la dernière émission de l'année dernière, on vous souhaitait à tous de joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Ben, on recommence. On vous transmet tous nos voeux de bonne année. En n'oubliant pas d'agir, de continuer à agir et de nous soutenir pour les droits humains, parce que bah, la situation générale des droits humains n'est pas vraiment en ce début d'année au beau fixe, et que donc il ne faut surtout pas arrêter les mobilisations et les actions pour défendre ces droits humains, qui sont d'autant plus indispensables que c'est au moment où on les perd qu'on s'aperçoit à quel point ils sont effectivement indispensables. Donc voilà, et pour commencer l'année, pour animer l'émission avec moi, il y a Françoise.
Bonjour.
Et il y a Juliane.
Bonsoir, bonne année.
Voilà.
Bonne année.
Encore une fois, bonne année à tous et à toutes. Donc pour commencer l'année, ben je vais vous lire un tout petit article qui n'est pas tiré d'une publication d'Amnesty, mais qui est signée par un avocat qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'est une association qu'on connaît bien et dans lequel, effectivement, au niveau de ce qui est dit, Amnesty pourrait dire exactement la même chose. Et c'est sur la situation de nos droits en France. Et ça s'appelle « Les citoyens doivent se défendre ». Depuis les attentats, et c'est signé donc par un avocat qui s'appelle Arié Halimi. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence se substitue progressivement à l'état de droit. D'abord sécuritaire, il est devenu sanitaire avec la pandémie du Covid-19. L'état d'urgence permet de transférer un certain nombre de pouvoirs de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative. Ce sont le ministère de l'Intérieur et le préfet de police qui ordonnent directement des mesures restrictives de liberté et non plus des juges, plus indépendants du pouvoir politique. Instaurées en 2015, les assignations à résidence ou les perquisitions ont ensuite été pérennisées dans le droit commun avec la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme de 2017. Tout s'organise sous le contrôle de la police. Avec l'état d'urgence sanitaire, on instaure une assignation à résidence pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire le confinement. On inverse la règle traditionnelle du droit, qui veut que la liberté soit le principe et sa restriction l'exception. À chaque fois qu'une peur renvoie l'individu à son instinct de survie, l'État en profite pour étendre son pouvoir et met en place de nouveaux outils de surveillance et de répression. La loi sécurité globale s'inscrit dans ce cheminement. Instaurer des drones, centraliser la gestion de caméras piétons portées par les policiers ou interdire de filmer les forces de l'ordre permet aussi de légaliser ce qui était déjà pratiqué avant de manière illégale. C'est une stratégie de l'illégalisme. Exemple, le préfet de police de Paris déploie des drones alors qu'il n'en a pas le droit. Il est condamné par le Conseil d'État, mais persiste, histoire de tester les contre-pouvoirs. L'état d'urgence permanent crée un tourbillon incessant de nouvelles lois, une espèce de trou noir qui aspire et détruit progressivement le cadre de l'état de droit dans une logique de toujours plus. L'individu est placé sous surveillance constante. Si la reconnaissance faciale est encore réalisée de façon individuelle et manuelle, je pense que les pouvoirs publics ont l'objectif de l'automatiser avant 2022. Il est fondamental que les citoyens se défendent. Le droit est une arme parmi d'autres, avec la politique et la médiatisation. Les plaintes contre X déposées par certains d'entre eux ou des associations pendant le confinement ont permis de rappeler que les responsables politiques encourent des responsabilités pénales quand ils touchent aux libertés publiques. Voilà. Donc c'est un petit communiqué signé par cet avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme, et on ne peut que contresigner. Donc soyez aussi vigilants, vous qui nous écoutez, par rapport à tout ce qui se passe en France, parce qu'on est sur une pente glissante en termes de remise en cause des droits fondamentaux. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Et donc je crois, mais aussi pour commencer l'année, il n'y a pas que des nouvelles un petit peu alarmistes ou alarmantes. Moi, il y a aussi Françoise qui veut vous donner des bonnes nouvelles.
Je voulais vous donner quelques bonnes nouvelles quand même. Eh bien, par exemple, la visite du qui a eu lieu, la visite d'État là, de l'Égyptien.
Du président Al-Sissi. Al-Sissi s'appelle-t-il.
Al-Sissi, voilà, a été bien critiqué, c'est sûr. Mais cependant, une liste de défenseurs des droits de l'homme égyptien a été remise à l'Élysée et à la mairie de Paris, qui vont accorder à 4 d'entre eux le titre de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Des dizaines de députés ont écrit à l'ambassadeur d'Égypte pour relayer nos demandes. Emmanuel Macron a aussi cité Rami Shattat, militant pacifique égyptien-palestinien, emprisonné et marié à une Française. Bon, nous suivons tout ça, mais nous avons espoir que ça soit positif.
Oui, ce sont quelques petites bonnes nouvelles par rapport à cette visite d'État du président égyptien.
Voilà. Ensuite, il y a eu aussi dans l'action, Amnesty avait provoqué, enfin, comment dirais-je, fait la campagne G20. Et là, il y a eu plus de 200 000 signatures exigeant la libération des défenseurs des droits de l'homme saoudiens. Et en France, 50 groupes se sont mobilisés pour cette campagne. Donc ça aussi, c'est un point positif. Voilà. Ensuite, concernant l'action climat, eh bien, on a eu l'objectif de rester sous la barre de plus 1,5 degré de réchauffement pour l'année 2021. Espérons qu'on tiendra cet objectif.
Oui, pour l'instant, ça paraît difficile, mais bon, voilà.
Il y a aussi l'action contre les balles écrivant des lettres. Des lettres adressées au président Alpha Condé en Guinée pour que les droits des victimes soient respectés et les responsables de ces violations soient traduits en justice.
Oui, il y avait une action, je peux faire un petit complément, il y avait une action effectivement sur le site d'Amnesty. Parce que pendant les dernières élections en Guinée, il y a eu effectivement des manifestations et des répressions qui ont fait que des forces de police ont tiré à balles réelles. Oui. Donc il y a eu des morts, effectivement. Oui. Vous pouvez retrouver l'information sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous tapez Guinée et vous aurez l'information sans problème.
Il y a Juliane aussi, je crois.
C'est la dernière bonne nouvelle.
Oui,
la dernière.
Bien sûr. Qui n'est pas, c'est celle à laquelle je pense, ce n'est pas la moindre.
Oui, alors, il y a deux semaines, lors de la dernière émission, on avait commencé à parler justement de la légalisation de l'avortement en Argentine, qui était en train de... Bon, ça s'augurait bien. Et finalement, l'adoption historique de la loi qui permet l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse en Argentine. Une réussite qui encourage d'autres pays de la région et du monde à prendre des mesures pour assurer l'accès sûr et légal à l'avortement. Et donc la réalisation des droits des femmes, en l'occurrence. Donc une victoire pour le mouvement des femmes en Argentine qui se bat pour ses droits depuis des dizaines d'années. Dorénavant, les personnes décidant de mettre un terme à leur grossesse auront accès à un service sûr et de haute qualité. La loi a été adoptée au Sénat et en soutien de plusieurs parties de l'ensemble de l'échiquier politique. La loi reconnaît le droit aux femmes de prendre des décisions libres et informées sur leur corps et permet à l'État argentin d'avancer vers le respect de ses engagements en matière de santé publique et de droits humains.
Voilà, c'est effectivement une grande victoire pour le droit des femmes en Argentine. On peut espérer que ça fasse, que ça inspire...
Boule de neige,
oui, voilà. Que ça inspire d'autres pays de la région d'Amérique du Sud, effectivement, qui ont souvent des législations extrêmement restrictives au niveau du droit à l'avortement. Et encore une fois, c'est une question évidente puisque c'est du ressort de chaque femme de disposer de son corps. C'est une évidence. Donc voilà, c'est une victoire importante et pour laquelle les militantes et les militants d'Argentine et Argentins se sont mobilisés à plusieurs reprises puisque un premier projet de loi avait finalement été rejeté il y a un an ou deux ans, je ne sais plus.
Oui,
etc. Et ils sont revenus à la charge ainsi que les parlementaires et ils ont fini par obtenir cette grande victoire. Donc, ça montre bien que nos mobilisations sont essentielles partout dans le monde. Et pour les mobilisations essentielles, on vous a parlé déjà dans nos précédentes émissions, hein, revenez sur les années précédentes, sur tous les podcasts qui sont en ligne sur le site du Principe Actif, les podcasts d'Amnesty. On vous a parlé de cette victoire qui représentait l'adoption par l'ONU en 2014 du traité sur le commerce des armes, qui a été adopté par la France, je crois, en décembre 2017. Alors, on n'est pas naïf. Maintenant, ce traité, il faut le faire respecter. On en est encore loin, mais on a une arme juridique, effectivement, pour pouvoir demander des comptes aux États qui ne le respectent pas. Et dans le Amnesty France vient de mettre en ligne, donc je vais vous le passer maintenant, un petit enregistrement qui montre bien que la mobilisation marche et qui raconte en fait l'histoire, en résumé, l'histoire de cette mobilisation pour obtenir ce traité sur le commerce des armes faite par Amnesty International. Et ça dure une petite dizaine de minutes, donc on se retrouvera pour la pause musicale d'ailleurs juste après.
Silence. On arme. Par Amnesty International.
Depuis maintenant plus d'un an, Amnesty International fait campagne pour obliger l'État français à faire la lumière sur ses ventes d'armes et obtenir un meilleur contrôle de celles-ci. On peut être pour ou contre les armes, mais des règles existent pour encadrer ce commerce pas comme les autres et protéger les droits humains fondamentaux contre ses effets dévastateurs. Dans ce premier épisode sur 4 de la série Silence, on arme, on vous raconte comment des militants se sont battus pour obtenir un traité international. Rencontre avec Max Wesby, responsable de la commission armes d'Amnesty International en France. Max a 73 ans, il milite pour Amnesty depuis une vingtaine d'années. Il vit dans un village d'environ 500 habitants à une quinzaine de kilomètres d'Autun en Bourgogne. Il a un léger accent dont je lui laisse le soin de vous dévoiler l'origine.
Oui, moi, comme vous entendez, je suis d'origine britannique, un bon exportateur d'armes.
Il m'a accueilli chez lui pour me raconter la campagne de mobilisation Control Arms, à laquelle il a participé pendant 10 ans, jusqu'à la signature du traité international sur le commerce des armes.
Salut Max.
Salut.
Ça va?
Ça va, ça va. Bienvenue en Bourgogne.
On va se mettre à l'intérieur. Hein.
Oui, oui. Je pense. Exceptionnellement, il ne fait pas 30 degrés.
En 2003, la campagne venait de commencer. C'était une coalition qui était menée par Amnesty International, Oxfam et IANSA.
IANSA, comme International Action Network on Small Arms. Désolé pour l'accent, c'est le réseau international d'action contre les armes légères.
J'y connaissais rien à l'époque. Et donc, c'était en commençant le travail avec la commission armes en 2003 que j'ai découvert les dégâts absolument affreux de la violence armée dans le monde. J'ai découvert, par exemple, des chiffres de base, 8 millions d'armes légères produites par an, 15 milliards de munitions produites par an, 2 balles par personne dans le monde. Une personne est tuée par balle toutes les minutes quelque part dans le monde. Ça fait 500 000 personnes tuées par balle par an. L'autre chiffre qui est très parlant, c'est qu'en fait, 90% des victimes sont des civils. On imagine que ce sont des soldats qui s'entretuent. Mais en fait, ce sont des civils qui sont touchés. Et parmi ces civils, c'est principalement des femmes et des enfants.
Pour développer l'analyse de Max sur les conséquences des ventes d'armes dans le monde, j'ai appelé Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International au Sénégal. Les 4207 km qui relient Paris à Dakar ont malheureusement eu raison de la qualité de la liaison téléphonique. Mais j'ai tout de même pu isoler un passage édifiant sur les ventes d'armes en Afrique de l'Ouest dans les années 90 et 2000.
Nous avions les guerres civiles au Libéria, en Sierra Leone. Nous avions aussi... une guerre ici au Sénégal en Casamance qui était à son niveau le plus élevé. Il y avait plusieurs guerres civiles en Guinée-Bissau pendant ces années-là, suite à des renversements violents de régime. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, on était tous dans cette zone de circulation des armes avec beaucoup d'instabilité. Les armes circulaient de part et d'autre des frontières des différents pays. Il y avait beaucoup de victimes. Les civils étaient les victimes à la fois des États, mais aussi des groupes rebelles, notamment au Libéria, en Sierra Leone, mais aussi en Casamance. beaucoup d'armes. Au Sénégal, par exemple, vous allez en Casamance à l'époque, vous trouviez des mines antipersonnelles qui étaient vendues dans des marchés hebdomadaires. Des mines qui étaient exportées de la Guinée-Bissau, qui étaient vendues dans des marchés hebdomadaires, qui étaient achetées par les groupes rebelles et utilisées contre l'armée et contre la population.
C'était Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International au Sénégal, et nous on retourne en Bourgogne avec Max, responsable de la commission armes d'Amnesty International en France.
60% des abus des droits humains sont infligés par des armes, soit directement, soit indirectement. Les viols, par exemple, souvent, les viols sont faits avec la menace d'une arme. Les déplacements des populations, des migrations. La plupart des migrations, déplacements des personnes, soit à l'intérieur de leur propre pays, soit au-delà, sont déplacés en conséquence directe de la violence armée. Ils ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine. Donc, il y a un gros problème et la question était comment construire une campagne pour contrôler ces transferts d'armes.
La première chose à faire pour les ONG de la coalition Control Arms, c'était d'alerter l'opinion publique. Pour y arriver, les militants ont imaginé une action qu'ils ont nommée « 1 million de visages ».
L'idée de la campagne « 1 million de visages », c'était de prendre une photo de quelqu'un avec un pancarte, avec un slogan, par exemple « Christiane pour un contrôle des armes »,« Non au commerce de la terreur »,« Oui à un traité sur le commerce des armes », etc. Et c'était vraiment très, très parlant. Hein. Bon, nous, on faisait ça, par exemple, sur les marchés. Donc, on avait un stand avec tous les chiffres que je viens de présenter. On prenait des photos. Est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en photo avec ce pancarte? Oui, oui, pas de problème. Ou sinon, montrez pas mon visage, montrez une main dans la position stop. Donc, 1 million de visages était une campagne qui a bien marché et qui a bien touché beaucoup de monde. L'autre action qu'on a faite deux ou trois fois, c'était l'action cimetière, ça s'appelle. Il y avait un acteur qui était déguisé en faucheur, l'homme faucheur, avec un faux.
C'est la mort qui arrive là.
C'est pas une par minute, c'est... donc, il y avait un acteur déguisé en faucheur. Et puis, on avait un système de sono sur la place qui sonnait le glas. Donc, toutes les minutes, ça faisait « bon » comme ça. Et puis, le faucheur sortait une pierre tombale. Et sur la pierre tombale est marqué « un mort chaque minute, victime du commerce des armes. » Et il posait la pierre tombale sur un stand. Et au bout d'une heure, on avait 60 pierres tombales, avec une énorme foule de gens qui regardaient. Et puis, il y avait d'autres membres du théâtre de la baleine qui passaient parmi des spectateurs pour leur demander ce qu'ils pensaient du commerce des armes, est-ce qu'il faut le réguler, est-ce que vous voulez signer cette pétition. Ça a marché très très bien. Le premier pays qui a dit qu'il accepterait l'idée d'un traité était le Royaume-Uni, je suis très heureux de dire. Et puis, deux années plus tard, 153 pays ont voté pour le plan d'un traité.
En 2006, donc, 153 pays signent un plan pour l'adoption d'un traité mondial sur le commerce des armes. Il faudra attendre alors encore 7 ans avant que ce traité, le TCA, ne soit adopté.
En 2013, le TCA a été adopté par 154 pays du monde. La première chose pour Amnesty était la règle d'or, ce qu'on appelait la règle d'or pendant toute la campagne pour le TCA. La règle d'or dit qu'un pays ne doit pas exporter s'il existe un risque majeur que les armes seront utilisées contre les populations du pays concerné ou pourraient être utilisées pour commettre des crimes contre le droit international humanitaire. Donc ça, c'était la base de ce fameux article 6 qui disait que un pays doit toujours, avant de signer l'acceptation d'une demande de licence d'exportation, doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'atteinte aux droits humains. Donc ça, c'est pour Amnesty, c'était vraiment le point central du traité. Au départ, les États hésitaient énormément. Ça, là, il n'y a pas de doute. Ils pensaient que ce serait une façon de bloquer un commerce qui était parfaitement légal d'exporter des armes. C'était la société civile qui a poussé. Il faut vraiment se rappeler que ce n'était pas les gouvernements qui voulaient un traité sur le commerce des armes. C'était la société civile qui a œuvré pendant toute cette période de 10 ans à peu près pour qu'il y ait ce contrôle. On s'est réjoui à l'époque de cette énorme avancée. Donc c'était vraiment le début de la fin.
8 ans après son adoption, le traité est sans aucun doute une grande avancée. Mais était-il pour autant le début de la fin? On verra ça la semaine prochaine dans le prochain épisode de la série d'Amnesty International. Silence en armes.
Voilà donc de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc comme vous avez pu l'entendre, et bien c'est le début d'un feuilleton en 3 parties sur lequel on reviendra bien évidemment dans nos prochaines émissions. Et donc on va enchaîner directement sur une petite pause musicale. Donc on se retrouve juste après, bien sûr.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux. On vient d'écouter Grand Corps Malade au Feu Rouge, un morceau qu'on vous a passé plusieurs fois l'année dernière. Mais pour recommencer l'année, juste une petite parenthèse, c'est un sujet dont on n'entend plus du tout parler ou très peu parler à cause de la première place qui est prise par la pandémie au niveau des informations. Mais la situation des réfugiés et des migrants en Europe n'a pas du tout évolué dans le bon sens et c'est un problème qui reste entier. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, d'où cette chanson. Et maintenant, on va changer complètement d'univers puisqu'on va vous parler de droits humains et d'alimentation. Mais oui, et c'est Juliane qui va vous en parler.
Voilà, on s'était dit qu'après les fêtes de Noël, parler d'alimentation, on restait dans le thème. Alors, comment on relie les questions écologiques, l'alimentation et les droits humains? Alors, petit point pour rappel sur la Convention citoyenne pour le climat. Pareil, on n'entend plus énormément parler. Est-elle tombée en décrépitude? Il semble utile de revenir sur quelques-unes des propositions. En l'occurrence, je vais vous parler d'une. Une des propositions des citoyens et citoyennes impliqués. L'une d'elles visait à introduire un choix végétarien. Comment? Je parle pas assez fort? J'essaie de voir mon texte en même temps.
Je faisais signe à Juliane de bien parler dans le micro, parce qu'effectivement, le son était un peu faible.
Alors, je vais parler plus fort. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Pardon. Mais tu vas retrouver.
Donc,
tu vas
introduire un choix végétarien chaque jour dans l'ensemble de la restauration collective publique, puisque celle-ci a d'ores et déjà été remplacée par une expérimentation volontaire. Donc, on n'est plus du tout dans l'idée d'un choix végétarien par jour, mais une expérimentation sur la base du volontariat. La Convention citoyenne pour le climat préconisait, je cite, de passer à un choix végétarien quotidien, on ne parle même pas de végétalien, dans les self-service à partir de 2022 et d'inciter la restauration collective à menu unique, à développer des menus végétariens. Donc là, je vous l'ai dit, le gouvernement avait proposé une expérimentation sur la base du volontariat. On ne sait jamais des fois que ce soit trop bénéfique pour l'humain et le climat. Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, déclarait le 27 novembre dernier ne vouloir dicter un menu à quiconque, sauf que empêcher l'accès à une option végétarienne est une façon d'imposer la viande au menu. On estime que l'agriculture est responsable, agriculture intensive, de 70% de la déforestation, en particulier au Brésil, qui possède le deuxième plus gros cheptel bovin au monde. Donc si on se penche un peu sur le Brésil, un rapport d'Amnesty International était sorti en novembre 2019, qui précisait qu'environ 2/3 des zones de la forêt amazonienne déboisées entre 1988 et 2014 sont clôturées, brûlées et converties en pâturage, soit une surface totale des terres équivalente à 5 fois la surface du Portugal. Certaines autorités au niveau des États permettent l'élevage de bétail dans les zones protégées. Tout comme les territoires indigènes, ces zones sont protégées par le droit brésilien et les traités internationaux. Les chiffres officiels, les images satellites et les visites sur le site effectuées par Amnesty montrent que les confiscations illégales de terres, pour la plupart liées à l'élevage du bétail, se multiplient dans les zones protégées en Amazonie brésilienne. Et c'était notamment le cas avec une multinationale qui s'occupe de la transformation de la viande JBS, qui était accusée justement du fait que les producteurs de cette chaîne avaient... exclu finalement les indigènes de leurs terres pour déforester et implanter le bétail qu'ils vendaient.
Avait donc porté atteinte directement aux droits des populations autochtones.
Exactement. Et le gouvernement de Bolsonaro a réduit le budget et entravé le fonctionnement des agences de protection de l'environnement et des territoires indigènes que certaines agences étatiques permettent dans les faits l'élevage de bétail dans les zones protégées. Donc ces actes constituent une violation des droits humains, des droits des peuples autochtones en l'occurrence en vertu de droit international, notamment ce qui concerne leurs terres et leurs ressources naturelles, déjà qu'ils ont déjà, pas énormément de terres disponibles et qu'on les pousse de plus en plus, des terres qu'on leur a octroyées. Donc on a une surpopulation sur des terres exiguës qui deviennent vite stériles, une mortalité très élevée due aux épidémies, là je reparlerai un petit peu, des suicides, des problèmes d'alcoolisme, une déforestation, une pollution des cours d'eau, disparition du gibier, ça commence à faire beaucoup. Alors, par rapport justement à la pollution des eaux liée à l'élevage intensif, on retrouve dans les eaux des nitrates, du phosphore, qui proviennent des épandages de fumier et de lisier, comme des rejets de pesticides et d'engrais contaminant aussi la terre. Près de 80% des émissions d'ammoniac proviennent de l'élevage. L'ammoniac se dissout dans les précipitations et provoque des pluies acides qui perturbent la photosynthèse et détruisent les éléments nutritifs du sol. Les lacs, les fleuves, les ruisseaux, les rivières, tout y passe. En Bretagne, on revient en France, on avait un phénomène qu'on a toujours d'ailleurs d'algues vertes qui est attribuable aux élevages porcins et qui provoque la mort de nombreux animaux sauvages aquatiques, en l'occurrence aussi domestiques pour ceux qui passaient par là. Les multinationales de l'alimentaire devraient voir leurs activités encadrées, tout comme par exemple celle de l'industrie du tabac. En 2016-2017, le secteur des boissons sucrées aux États-Unis a dépensé 50 millions de dollars en lobbying pour contrer des mesures destinées à diminuer la consommation de soda, selon un rapport de la revue britannique médicale britannique de Lancet. Alors là encore, sur les impacts de l'élevage de viande industrielle et du gaspillage et de la pollution de l'eau. Bon, je vous apprends rien, la Terre dispose d'un stock d'eau limité. Certaines régions du globe sont confrontées à des sécheresses et des pénuries d'eau. Le réchauffement climatique n'arrange rien. L'élevage, y compris la pisciculture, est la première source de pollution des eaux, via les déchets des animaux, antibiotiques, hormones, produits toxiques issus des tanneries, engrais, pesticides utilisés dans les cultures fourragères. Et maintenant, quel lien également avec la sous-alimentation dans certaines régions du globe ? FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime que 795 millions d'humains et d'humaines sont sous-alimentés dans le monde. La malnutrition affecte un enfant sur trois dans les pays en développement. Elle réduit la résistance des enfants aux maladies, provoque des handicaps mentaux et physiques et accroît leur mortalité, selon World Hunger Education Service. Donc ça date de 2013. Pour exemple, près de 85% de la production mondiale de soja est destinée à l'alimentation animale. Bon, alors bien sûr, en plus, c'est du soja OGM transformé. Il n'est pas du tout biologique, alors que le soja est une denrée, en l'occurrence hautement nutritive, qui est directement consommable par les êtres humains. Et finalement, l'affecter à l'alimentation animale constitue un des tours de production qui peut être vu comme inefficace. Bon, ensuite, l'élevage de viande et la santé humaine. Là, on va parler un peu de virus et de pandémie. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent en ce moment. Dans de nombreux cas, les virus de type...
C'était une boutade.
Non, pas du tout. De type Ebola, le VIH, les coronavirus. Le Covid-19 est faire partie de l'un des coronavirus, il y en a d'autres. Se manifestent directement en raison de la chasse et ou de la consommation d'animaux sauvages. La destruction de forêts tropicales, la surexploitation des espèces animales qui y vivent favorisent la dissémination de virus en rapprochant la faune sauvage des animaux domestiques qui, en principe, n'étaient pas confrontés les uns avec les autres, ou rarement, directement ou indirectement, et finalement des êtres humains. Franck Courchamp, écologue, affirmait « Confiner un maximum d'animaux de ferme, génétiquement semblables dans un minimum d'espace » qui plus est à proximité d'espèces sauvages porteuses de virus, fournit un cadre idéal aux pathogènes pour infecter d'autres espèces. Donc je suis désolée de vous le dire, mais on risque de voir des pandémies plus fréquentes, plus mortelles et plus coûteuses. Et le rôle de l'élevage dans les pandémies a été effacé, cela pour ne pas nuire à la consommation de viande. Un exemple. Depuis 2009, sous la pression des producteurs de viande et des gouvernements concernés, l'OMS parle de grippe A, H1N1, et non plus de grippe porcine. Donc un peu une manière d'effacer un peu la cause probable de ces pandémies. Alors j'hésite à vous parler des conditions de travail et de santé des ouvriers et ouvrières d'abattoirs, parce que je n'ai pas vraiment envie de vous déprimer un peu plus. Est-ce qu'on parle du devoir de vigilance à la place ?
Oui, bien sûr. Enfin, bon, non, mais je sais. Bon, que tu avais effectivement prévu de terminer là-dessus. Enfin, tu peux juste en dire un petit mot, ça, même si tu ne cites pas tout ce que tu avais prévu de le dire, parce qu'effectivement, ça a aussi des conséquences en termes de droit à un travail, comment dire, des conditions de travail normales, qui font partie des droits humains fondamentaux. Donc, si tu peux en dire un petit mot. Puis je pense qu'après, Françoise et moi, on aura quelques commentaires à faire sur ce que tu nous as dit.
Ça marche. Alors, puisqu'on ne parle plus beaucoup des migrants et des migrantes, on va parler un peu des ouvriers et ouvrières dans les abattoirs qui sont souvent dans des contrats précaires. Et par exemple, on a 40% de ces travailleurs et travailleuses qui sont des intérimaires et donc en statut précaire et qui sont des personnes en difficulté financière, migrants, migrantes, comme on l'a dit, des personnes sans papier parfois, originaires d'Europe de l'Est, des pays arabes ou d'Afrique subsaharienne. Voilà. Alors, donc on avait aussi une dernière bonne nouvelle là, que je vais évoquer rapidement. On avait parlé il y a quelques émissions déjà du devoir de vigilance des multinationales et une loi a été passée en France. Alors, il me semble que c'était 2017. Et maintenant, au niveau de l'Europe, il est prévu qu'une norme contraignante sorte justement pour lutter contre cette impunité des multinationales en termes, pour protéger l'environnement et les droits humains. Donc, l'année 2021 pourrait voir naître ce type de normes qui serait contraignante et qui finalement s'appuierait sur la loi française déjà, donc comme modèle pour les premiers travaux. Donc il faudrait que ce soit une législation vraiment efficace pour les victimes, applicable à toutes les sociétés commerciales. On sait qu'en France, c'est pour les sociétés qui emploient plus de 5000 personnes, il me semble. Donc ça ne concerne pas toutes les sociétés. Il y a des sociétés plus petites, notamment dans le milieu extractif, qui ne sont pas couvertes par cette législation. Donc il faudrait que ça s'applique quelle que soit leur forme, leur taille, le secteur d'activité. Par exemple, les institutions bancaires ou les activités commerciales, donc basées ou ayant des activités commerciales sur le marché européen. Voilà, donc le but étant de prévenir, d'atténuer les risques et de faire cesser les violations des droits humains et atteintes à l'environnement engendrées par l'ensemble de leur groupe et dans leur chaîne de valeur. Voilà, rapidement.
C'est ce qu'on appelle effectivement la responsabilité sociale des entreprises. Mais donc il y a un débat qui va avoir lieu, qui devrait avoir lieu cette année parmi les instances européennes, le Parlement européen, à la demande d'un certain nombre d'élus.
Et au niveau international aussi, je ne sais plus.
Oui, au niveau international.
On avait parlé au niveau de l'ONU.
C'est ça. Mais au niveau européen, ça devrait être discuté cette année. Donc, croisons les doigts pour qu'effectivement le projet arrive à son terme. Et non seulement croisons les doigts, mais continuons à faire du lobbying. Amnesty a un siège de consultant en termes de droits humains auprès du Parlement européen. Donc, on ne manquera pas de leur rappeler à leurs devoirs. Mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur ce que tu nous as dit, donc sur l'alimentation et les droits humains et toutes les conséquences que ça peut avoir. Bon, petite parenthèse quand même, bien évidemment, Amnesty n'a pas du tout comme but ou comme préoccupation, ça ne rentre pas du tout dans ce qu'on appelle notre mission, de promouvoir tel ou tel régime alimentaire. C'est pas ça du tout le problème. Donc chacun fait comme il veut par rapport à ça, ça c'est clair. Mais simplement, c'est que bon, ce qui paraît intéressant dans ce que tu nous as dit, c'est que ce qu'on mange, en fait, et c'est peut-être là qu'il y a le pouvoir des citoyens, ce qu'on mange et la façon dont on conçoit nos repas, ça a aussi des conséquences en termes de droits humains. Je vais revenir sur un exemple très précis. Effectivement, tu as longuement parlé du Brésil. Bon, c'est vrai qu'au Brésil, il y a la déforestation, ça tout le monde le sait. On sait que la déforestation sert à cultiver du soja de façon parfaitement industrielle, du soja qui sert à nourrir, qui est exporté après et qui sert à nourrir, entre autres, les élevages de volailles industrielles en France, ou les élevages, pas seulement en France, mais en Europe, en France aussi, et les élevages de porcs industriels aussi en France. Donc, quand on réfléchit bien, cette déforestation qui remet en cause effectivement les droits des peuples autochtones, qui aboutit parfois à la mort de certains, qui sont assassinés, de certains militants écologistes qui cherchent à défendre ces droits des populations autochtones et qui veulent s'opposer à la déforestation, qui en payent donc parfois de leur vie. Ce soja brésilien, de qualité épouvantable sur un plan écologique, sert à produire industriellement une viande qui est elle-même de qualité épouvantable et qui est aussi bien au niveau de la production que dans le produit fini, et qui aboutit dans les assiettes du consommateur français, c'est les poulets premier prix et autres, ou les viandes de porc industrielles que l'on trouve partout dans les supermarchés. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que en essayant d'acheter de la viande de bien meilleure qualité, qui sera évidemment pas vendue le même prix, mais si on en mange moins, le problème ne se posera pas du tout dans les mêmes termes, d'acheter de la viande de qualité produite en France avec, si possible, de production biologique ou au moins de qualité correcte, on n'aura pas du tout les mêmes impacts en termes de droits humains à travers la production agricole, et si on vient à la source, au niveau du pays qui l'a produite, en l'occurrence, et ce n'est pas les seuls, mais en l'occurrence, le Brésil. Donc en fait, on a une action, nous-mêmes, dans la façon dont on mange et la façon dont on achète nos aliments, qui a des conséquences en termes de droits humains. Et ça, c'est un exemple tout à fait frappant. Et un autre juste petit commentaire qui m'est venu en t'écoutant, c'est que tu parlais des algues vertes en Bretagne. Oui, c'est les algues vertes, hein, c'est ça.
Oui, elles
ne sont
ça,
pas bleues, elles sont vertes. Les algues vertes en Bretagne, qui sont dues aux excès de nitrates, dus aux engrais chimiques et autres, qui sont déversés à coup de millions de tonnes dans les cours d'eau bretons. Moi, j'avais vu une émission l'année dernière tout à fait par hasard là-dessus, sur je ne sais plus quelle chaîne de télé, peu importe. Et en fait, il n'y a pas que, de, que des victimes animales, puisque l'année dernière, il y a, ou il y a deux ans, il y a un jogger qui faisait son exercice sur une plage, je crois que c'était du côté de Saint-Brieuc, qui est mort, et visiblement qui est mort d'asphyxie à cause des émanations dues à ces algues.
Des chevaux aussi, je me rappelle.
Il y a des chevaux, tout à fait, tout à fait. Et il y a eu au moins une personne qui est morte, et le milieu médical pense que c'est à cause de la pollution par ces algues. Donc, encore une fois, la façon dont on va cultiver les choses, la façon dont on va produire de l'alimentation, et la façon dont on va consommer ces différents types d'alimentation, a des conséquences sur les droits humains, et c'est sous cet angle-là qu'Amnesty International est concerné par cette problématique. Encore une fois, ce n'est pas en termes de promouvoir tel ou tel régime alimentaire, ce qui ne nous regarde pas. Mais les conséquences en termes de droits humains sont importantes. Voilà. Donc, on aura, je pense, aussi l'occasion d'y revenir. Là, il est largement le temps maintenant qu'on fasse la deuxième pause musicale, à moins que Françoise, tu avais une bonne nouvelle à nous dire, non t'avais...
J'avais peut-être une action urgente à proposer.
Ah, une action urgente, c'est vrai. Donc, on va faire attendre encore deux minutes la pause musicale qu'on va vous passer après.
Voilà, alors je vais vous parler d'une Ouïghour à nouveau détenue au secret. Donc Amnesty lance à nouveau une action urgente à son sujet. Donc par rapport à la Chine, bien sûr. Hein. Mayra Yacoub a été renvoyée au centre de détention de Ying dans la région du Xi'an en Chine fin novembre 2020 et ne peut toujours pas communiquer avec sa famille ni avec son avocat. Elle travaillait pour une compagnie d'assurance. Elle avait été disparue en avril 2019. En janvier 2020, elle a été inculpée de soutien matériel à des activités terroristes après avoir transféré des fonds en Australie. Elle a été libérée à titre provisoire le 4 septembre 2020 et hospitalisée pour des raisons inconnues. Son état de santé suscite de vives inquiétudes car elle a subi des problèmes de foie lors de sa précédente détention. Donc, on demande d'agir pour sa libération. Donc, si vous souhaitez faire cette action urgente, envoyez-nous un petit mot sur amnesty.evreux@gmail.com et nous vous détaillerons le processus à suivre pour envoyer cette action urgente. Merci pour elle.
Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait directement une action urgente dans nos émissions, mais c'est important. Continuez à vous mobiliser avec nous. Parce qu'on vous explique à longueur d'antenne que c'est seulement en agissant ensemble qu'on fait avancer les choses. Donc voilà, un petit peu de musique.
The dust settles on an old delivery van. Hot metal rests heavy on the swollen land. Sirens come screaming into life. They're crying like a young teething child. And I don't know why my mother is quiet. I don't know where my father is gone. All I know is I feel alone and I'm scared to the bone. Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low, won't you give a home? There's no blanket to pull up over my head.
smoke shatters out into the atmosphere, and it chokes out all the sunlight. I'm left stranded in eternal nighttime, and I don't know how it's come to this. I don't know when it'll all be over. All I know is I feel alone and I'm scared to the bone. Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home? Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home?
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, on vient d'entendre une chanson qui s'appelle Give a Home, qui a été composée par quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Ciaran McMeekin, qui est australien. Et cette chanson avait été composée il y a quelques années à la demande d'Amnesty International Australie. Voilà, donc il nous l'avait composée pour nous. Françoise, je crois que tu avais quelques informations à propos du travail des enfants.
Oui.
Et ça fait aussi plusieurs émissions où on n'a pas trop parlé des droits des enfants, et c'est très bien que tu y reviennes ce soir.
Voilà, alors, la convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail sur le travail des enfants est universellement ratifiée. Les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail ont tous ratifié la convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants de 1999. Il s'agit de la convention la plus rapidement ratifiée dans l'histoire de l'organisation depuis son adoption par la Conférence internationale du travail il y a 21 ans. La ratification universelle de la convention numéro 182 est une première historique qui signifie que tous les enfants jouissent désormais d'une protection juridique contre les pires formes de travail des enfants, a déclaré Guy Ryder, directeur général de l'OIT. Elle reflète un engagement mondial selon lequel les pires formes de travail des enfants, telles que l'esclavage, l'exploitation sexuelle, l'utilisation des enfants dans les conflits armés ou d'autres travaux dangereux ou illicites qui compromettent la santé, la moralité et le bien-être psychologique des enfants, n'ont pas leur place dans notre société. L'OIT estime à 152 millions le nombre d'enfants qui travaillent, dont 73 millions dans des travaux dangereux. 70% de l'ensemble du travail des enfants concerne l'agriculture et sont essentiellement liés à la pauvreté et aux difficultés de leurs parents à trouver un travail décent. La convention numéro 182 demande la prohibition et l'élimination des pires formes de travail des enfants, y compris l'esclavage, le travail forcé et la traite des êtres humains. Elle interdit l'utilisation des enfants dans les conflits armés, la prostitution, la pornographie et les activités illicites telles que le trafic de drogue et les travaux dangereux. À cause de la pandémie, un grand bond en arrière ? Cependant, les progrès ont marqué le pas ces dernières années, en particulier dans la tranche d'âge la plus jeune, 5 à 11 ans, et dans certaines zones géographiques. Avec la pandémie du Covid-19, le risque est réel que ces années de progrès soient annulées, ce qui pourrait conduire à une augmentation du travail des enfants pour la première fois en 20 ans si des mesures appropriées ne sont pas prises. Donc ce résultat historique intervient quelques mois seulement avant le début de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants en 2021, qui sera dirigée par l'OIT en collaboration avec ses partenaires. Son but est de sensibiliser à cette question et d'accélérer le rythme des progrès.
Voilà, juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent, sont peut-être pas au courant, l'OIT, ça veut dire Organisation Internationale du Travail, effectivement, oui. Et qui regroupe un grand nombre de syndicats au niveau mondial, entre autres. Voilà, donc oui, bah, c'est une bonne nouvelle si on peut voir aboutir là aussi ce projet. C'est comme la responsabilité sociale des entreprises. Si on peut avoir abouti ce projet qui sera encore plus strict sur l'interdiction mondiale du travail des enfants, effectivement, qui est un scandale qui continue malgré les normes en vigueur à l'heure actuelle. Bon, moi, je voulais vous donner une autre information, alors qui n'est pas vraiment, enfin, qui est une demi-bonne nouvelle. C'est la situation de Julian Assange. Vous en avez forcément entendu parler dans les médias ces derniers jours. Julian Assange, qui est donc l'ancien directeur et responsable du site Wikileaks, lequel site, il y a pas mal d'années maintenant, avait publié des informations qu'ils avaient obtenues de façon indiscrète, venant du ministère de l'armée américaine et autres structures officielles des États-Unis, et qui dénonçaient un certain nombre de crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan, entre autres, et pas seulement en Afghanistan, et aussi en Irak. En Irak principalement, d'ailleurs, je crois. Et donc, à la suite de ça, Julian Assange, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais a été inculpé pour haute trahison par les services officiels américains et le ministère de la Justice et des armées américaines, etc. etc. Vous rappelez que Julian Assange n'est pas du tout un citoyen américain, mais que c'est un citoyen australien. Et que donc, il a été réfugié accepté comme réfugié dans l'ambassade du Pérou au Brésil pendant pas mal d'années. Mais il a fini par être récupéré et inculpé par la justice britannique, qui s'est fait l'écho, assez bassement on pourrait dire, de l'inculpation émise par les autorités américaines. Donc il risque aux États-Unis en fait près de 300 ans de prison si jamais il est extradé aux États-Unis. Et donc au début du mois, le juge anglais, parce qu'il est actuellement en prison en Grande-Bretagne, le juge anglais devait décider si oui ou non il allait être extradé. Donc cette extradition a été rejetée. Donc ce qui a fait dire à Amnesty que c'était une première bonne nouvelle. Cependant, il y avait deux jours après, là par contre mauvaise nouvelle, deux ou trois jours après, sa demande de remise en liberté sous caution qui devait être statuée par la même juge, c'est une femme, et qu'il l'a rejetée, estimant qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'accepter cette demande en liberté provisoire. Donc il est retourné en prison. Julian Assange n'a fait qu'un travail de journaliste. Il n'a absolument commis absolument aucun délit. Il a fait un travail de journaliste en publiant des informations qui étaient top secret et censurées par les autorités américaines, mais qui, encore une fois, dénonçaient des crimes de guerre. Donc voilà, donc Amnesty continue à se mobiliser. Je vais juste vous lire quelques lignes du communiqué de presse qui est paru. Donc le 4 janvier, le tribunal britannique a reconnu que les conditions de détention auxquelles Julian Assange pourrait être soumis aux États-Unis, donc s'il était extradé, seraient terriblement néfastes sur sa santé mentale. La juge a donc pris la décision de ne pas approuver son extradition vers les États-Unis. Après avoir été réfugié pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur, c'est à l'ambassade d'Équateur à Londres, le fondateur de Wikileaks est incarcéré depuis 2019 dans la prison anglaise de Belmarsh. Son état de santé s'est aggravé. Julian Assange souffre d'un état dépressif et de pulsions suicidaires. Voilà. Alors Amnesty précise, nous saluons le fait que le tribunal britannique ait décidé de ne pas extrader Julian Assange. Toutefois, les accusations portées contre lui n'auraient jamais dû être prises en compte. Ces accusations étaient motivées par des considérations politiques de l'administration américaine. Voilà. Donc, Julian Assange est vraiment enfermé à cause de son travail de journaliste. Vous trouverez aussi beaucoup d'informations d'une association qui nous est très proche, hein, qui s'appelle Reporters sans frontières, RESF. RSF, et qui a fait plusieurs dossiers de presse sur et demandant la libération de Julian Assange. Petite information, RSF était la dernière ONG qui a été autorisée à assister aux dernières délibérations du procès de Julian Assange. Amnesty International Grande-Bretagne, qui avait été autorisée à assister aux premières réunions de ce procès, n'a plus été autorisée par la suite. On se demande bien pourquoi. Voilà, donc on ne va pas tarder à rendre la l'antenne à notre ami du laboratoire qui vient d'arriver, à qui on va souhaiter en direct et dans le studio de vive voix bonne année. Qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir. Voilà. Donc avant que vous ayez vous-même une autre information qu'on n'aurait pas utilisée. Non, on va rendre l'antenne tranquillement pour le laboratoire. Et donc, on se retrouve pour la prochaine émission d'Amnesty le 26 janvier à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et juste, oui, je me permets, ce n'était pas prévu, mais ça me traverse l'esprit, de vous dire qu'on espère reprendre aussi très vite, on va en discuter demain avec les responsables de la radio, on espère reprendre très vite notre série d'émissions Fréquence Droits Humains, qu'on a dû suspendre pendant plusieurs mois à cause de la pandémie, mais on espère les reprendre et on vous, bien sûr, tiendra au courant de nos prochaines émissions Amnesty en direct sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.
Bonsoir,
et rendez-vous le 26. Encore une fois, les podcasts sont disponibles sur le site d'Amnesty, n'importe quoi, sur le site de la radio principeactif.net.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en